Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour à tous.
Et de Mordren.
Salut tout le monde.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons du Kickstarter d'un projet français nommé Isle. Nous enchaînons ensuite sur Golden Games, qui vous permettra de télécharger vos vieux jeux. On évoquera également la fermeture définitive de OnLive. On enchaînera ensuite sur le Nintendo Direct, où on a eu droit à des DLC à gogo. D'ailleurs, toujours sur le Nintendo Direct, nous pencherons également sur le cas du nouveau Fire Emblem, qui apparemment sera découpé en deux épisodes, mais c'est pas tout à fait clair, mais on évoquera ça tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, le report de Quantum Break à 2016. Encore un jeu qui ne sortira pas cette année. La next gen, c'est tout pourri. Voilà, voilà. Sans oublier notre jeu du moment. ATH y a joué spécialement pour vous. Enfin, surtout pour lui. Ça s'appelle Bloodborne. Allez, c'est parti. On commence donc avec le Kickstarter de Isle. Alors, c'est un concept que je trouve, ma foi, assez intéressant. C'est-à-dire que ça mélange le God Game, parce qu'il y a du terraforming. En gros, c'est un jeu dans un univers d'Ivolant. Et ces îles, en fait, vous allez pouvoir les créer. Chaque île a un élément particulier. Et cet élément va définir les futurs pouvoirs que vous allez pouvoir débloquer. Par exemple, sur une île, vous allez pouvoir vous soigner plus facilement. Sur une autre île, vous allez débloquer le sort de téléportation, etc. Et c'est un jeu donc qui mélange action RPG, aventure et un peu de stratégie, un zeste de stratégie. Et ma foi, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais ça, plus le visuel du jeu, ça a l'air fort intéressant.
Ouais, au niveau du visuel du jeu, on est un petit peu à mi-chemin entre un Zelda Wind Waker et un Zelda Skyward Sword. Donc c'est vraiment des tons un peu pastel. C'est très joli. Enfin, il y a une vraie gueule au jeu. C'est assez intéressant visuellement et comme tu le disais tout à l'heure, il y a un véritable concept derrière le jeu. Alors après, faut juste voir s'il est véritablement faisable de le faire en jeu, parce que voilà, c'est assez complet et finalement, il demande pas beaucoup en termes de budget, quoi.
Voilà. Par contre, ATH, je crois que toi, le visuel, t'étais moins emballé.
C'est pas la direction artistique qui me plaît pas, c'est juste l'aspect un peu trop cubique des choses, quoi.
Après, ça donne un petit cachet au jeu, mais c'est vrai que c'est assez spécial, quoi. C'est particulier. Dans tous les cas, Mordren, il demande combien ces gens-là?
Il demande 90 000 $ actuellement.
Alors 90 000 $, sachant la conversion euro-dollar actuellement, c'est-à-dire parité totale, vous retirez la taxe du gouvernement américain, parce que c'est en dollars, donc c'est fait aux États-Unis, vous retirez la taxe du gouvernement français, vous retirez la commission Kickstarter, oula, ça fait un peu peur quand même, je te le cache pas, mon cher Mordren, niveau budget.
Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Alors après, c'est un jeu qui a pas vraiment de nom. Je connais pas forcément les développeurs qui sont derrière aussi. Je pense qu'ils essaient d'être prudents. Après, j'ai un petit peu fouiné dans leur budget et, pour voir un petit peu déjà à quel point le jeu était avancé. Il faut savoir que le jeu, ils ont travaillé depuis 2 ans dessus.
D'ailleurs, allez voir la vidéo, ça se voit.
Ouais, ça se voit parce que c'est vraiment... Enfin, le prototype qu'on voit est assez complet déjà et c'est assez impressionnant. De voir qu'ils l'ont vraiment travaillé. C'est un jeu qu'ils ont déjà présenté à la Paris Games Week. Ils ont déjà dépensé 125 000 $ de leur propre poche, en fait, sur le jeu, sur une période de 2 ans. Donc, on voit quand même que le budget est très restreint et assez polissé sur une période assez longue, l'air de rien.
Surtout que là, on parle de 125 000 $, mais au moment où ils ont fait ça, c'était pas la même conversion, quoi. Donc, j'imagine que... Ouais, c'est les mecs, je sais pas, ils vivent tous sous le même toit, je pense, parce que pour vivre avec ça en France, avec une dizaine de personnes,
Donc ils demandent 90 000 $, et ils ont l'intention de travailler encore au moins 1 an sur le jeu pour le peaufiner et le sortir dans de bonnes conditions.
Alors c'est prévu sur PC, Mac, Linux, Wii U, PlayStation Network, Xbox Live Arcade. Bref, ça va bouffer à tous les râteliers.
Ils ont raison.
En plus, je précise, c'est un Kickstarter français. Donc si vous n'êtes pas content, vous pourrez aller leur casser les jambes. Donc voilà, honnêtement, c'est un projet qui a l'air très intéressant. Moi en tout cas, je suis séduit. Je vais probablement backer. Sachant qu'en plus, là, je trouve que le démarrage est vraiment mou.
Ouais.
D'un autre côté, malheureusement, j'ai peur que ce soit un Kickstarter très franco-français qui n'est pas assez communiqué à l'international, parce que c'est vrai qu'ils ont pas mal fait des choses à Paris ou Games Week, etc.
Mais... On les a vus chez Gamekult aussi, ouais. Dans un GK Live, c'était plutôt cool, mais c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à communiquer à l'étranger pour l'instant.
Et comme les Français sont des gros radins, voilà.
Oui, c'est vrai.
Il y a aussi quelque chose qui me fait peur, plus particulièrement dans ce jeu, c'est que le gameplay, ça soit un peu un fourre-tout, où il y a du code game, de l'exploration, de l'action, et vu que c'est des genres de jeux d'habitude assez différents, je sais pas si là, ça va être bien fait ou pas. J'ai peur que un prenne le pas sur l'autre, et surtout que bah il y a des trucs où certains joueurs vont complètement passer à côté en voulant faire que de l'action ou bien que du god game, et j'espère que ça va être vraiment bien implanté. En tout cas, je leur souhaite qu'ils réussissent à proposer quelque chose d'assez novateur finalement, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça, et j'espère que ça va réussir, quoi.
Bah, ne serait-ce qu'en termes d'interface, c'est super galère, hein, parce que faire tout ça au pad. Le jeu se joue à la troisième personne. Donc, pour gérer, tu sais, la création d'île, tout ça, comment ça va se faire au niveau de l'interface, c'est assez compliqué, quoi.
Ouais.
Il y a tellement de concepts différents qui s'imbriquent là-dedans que ça peut être effectivement très, très, très casse-gueule. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait l'intérêt de ce projet, j'ai envie de dire. Le mélange de plein de genres différents qui, mine de rien, peuvent assez bien s'imbriquer, je trouve. Enfin, c'est pas non plus des choix totalement absurdes, quoi.
Oui.
le fait que t'aies une partie stratégique, mais que tu puisses à tout moment passer en mode action, tu vois, enfin, c'est intéressant.
Ça a aucun rapport, mais par exemple, dans Temper World, tu créais ton parc d'attractions, et après, t'avais un mode où tu passais, genre, comme en spectateur, et tu pouvais essayer les attractions. Voilà. On dirait, c'est un petit peu ce délire-là, tu vois. Sauf que là, c'est une zone d'exploration et tout, donc, moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne.
En gros, ça fait vraiment, t'as une phase création, en fait, puis derrière, t'as les ennemis qui arrivent, donc là, tu passes en mode plus stratégie, etc. Alors, du coup, comment ils vont implémenter ça? Est-ce que la phase création, tu es déjà attaqué, ou est-ce qu'on te laisse le temps de te poser et de réfléchir à comment tu vas organiser ta map? Parce que pour le coup, c'est vraiment toi qui crée la map. Après, est-ce que le fait que ce soit toi qui crée les cartes, est-ce que ça va pas trop faciliter le jeu aussi? C'est une question que je me pose. Tu peux parfaitement arranger la map pour que ça te soit favorable au niveau du terrain, tu vois. Il y a pas mal de questions encore.
Ouais, c'est ça.
Bon, allez, messieurs, nous allons passer à la suite et nous allons enchaîner avec une très bonne nouvelle cette semaine, à savoir Good Old Games, qui vous permet de télécharger vos jeux gratuitement. Je précise, pour le moment, ça se limite à un certain nombre de jeux, et en l'occurrence, ils se comptent sur les doigts d'une main. En France, ça se limite à la saga Stalker. Mais quand même, donc ça veut dire que si vous avez vos boîtes de Stalker, vous avez acheté à l'époque les Stalker en boîte, vous pouvez aller sur Good Old Games, entrer votre clé CD, et vous avez une copie gratuite, en démat, pour vous. Ça, moi je veux pas dire, mais bon, on se doute c'est un peu de la com, hein, mais c'est classe quand même, quoi.
Ouais, mais n'empêche, fallait y penser, parce que moi personnellement qui suis en pleine session nostalgie, où je joue un petit peu à tous les jeux que j'ai retrouvés dans mes étagères, c'est un truc qui me manque un peu, quoi. C'est bien de réinstaller à chaque fois des gigas et des gigas sur son PC avec un CD, mais parfois le CD bah il marche plus trop, donc voilà. Je trouve que c'est un super concept, ça serait bien qu'il s'étende un petit peu à une librairie un petit peu plus étendue. Je me suis rendu compte, par exemple, en jouant au Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu, un jeu qui est sorti en 2004, donc à plus de 10 ans, que il était impossible à trouver sur les magasins en ligne, ou même en occasion à pas cher. Et je me suis dit, mais comment ça se fait, quoi? À quel moment on ne peut plus jouer à ce jeu, en fait? Et donc, du coup, je suis très content d'avoir encore mon CD, quoi, parce que c'est... Voilà, et je pense qu'avec un système comme Good Old Games, un système de ce genre-là, il y a pas mal de jeux un petit peu oubliés auxquels on va pouvoir rejouer... Et ça me fait plaisir.
Par rapport à ce que tu as dit, Mordren, à mon avis, l'explication est simple, hein, c'est les licences.
Ouais.
C'est-à-dire que on l'avait évoqué il y a plusieurs podcasts de cela avec ATH, Des fois, tu sais, les licences, comme les studios, ils ont été rachetés par un tel et par un tel.
Ouais.
Ça se partage entre X boîtes. Donc, du coup, il faut négocier avec X boîtes. Et derrière, bah, si ça se trouve, t'as une boîte qui a une licence et qui veut pas te laisser sortir le jeu. Ou qui potentiellement a la licence, mais t'es pas sûr, mais qui a dit que si tu fais quelque chose, on va les chercher dans la cave et on va venir te casser les couilles ensuite. Mmh. Donc voilà, c'est toujours le même problème avec les vieux jeux, c'est que le système de copyright est tellement absurde qu'on se retrouve avec des situations où tu peux plus revendre les jeux en fait.
Ouais. Bah, c'est surtout pour le coup, le Seigneur des Anneaux s'est passé chez Warner, alors que c'était chez Electronic Arts avant, enfin bref.
Oula.
Même à l'époque, c'était un bordel aussi, parce que je me rappelle, il y avait deux jeux de stratégie Seigneur des Anneaux qui étaient sortis à un an d'intervalle, l'un chez Vivendi qui adaptait les livres, et l'autre chez Electronic Arts qui adaptait les films, enfin bref, le bordel total.
Bon, ATH, qu'en penses-tu ?
Bah, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont encore ces boîtes et qui souhaitent y rejouer sur PC. Après, c'est un petit peu dommage que pour l'instant en France, on n'a pas encore le même catalogue ailleurs et que même ailleurs le catalogue est quand même assez restreint. Mais bon, je suppose que probablement dans le futur, j'ai vu qu'ils travaillaient dessus pour étoffer le catalogue un peu plus. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Après, tu vois, il y aura eu d'autres possesseurs de plateformes qui t'auraient fait payer pour avoir le même jeu. Et mais là, ce qui est vraiment bien aussi, c'est que par exemple, si tu as juste Stalker, il te donne les extensions qu'il y a derrière. Ce qui est bien, c'est que GOG te propose la compatibilité de tes vieux jeux, qui permet de les faire tourner en fait sur ton ordinateur actuel. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que des fois, on sait que certains jeux ont du mal à passer. Si tu veux aujourd'hui rejouer un Baldur's Gate, etc., bah t'auras du mal à le faire tourner sur Windows 7 ou Windows 8, etc.
Et
bah,
ou alors tu achètes la version plein pot qui est ressortie récemment, la remasterisée.
Voilà, et eux ils te proposent tout simplement un émulateur sur ton appareil, mais qui est intégré, t'as pas à installer un truc et à te faire chier, c'est eux-mêmes qui le font.
Ils l'ont préconfiguré en fait.
Voilà, et c'est simple.
Et donc du coup t'as pas...
Voilà, donc ça fait un service accessible et qui te facilite la vie. T'as pas à te faire chier à chercher toi-même les drivers, des trucs pour faire tourner le jeu sur tel ou tel OS. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on attend que le catalogue s'étoffe éventuellement. Et surtout que, comme je l'avais dit il y a bien longtemps, on parlait de GOG, c'était que même si c'est de la communication, etc., au moins ils pensent un petit peu aux joueurs et ça fait plaisir.
Tout est dit. Donc nous allons maintenant passer à la suite et nous allons évoquer le cas de Hunlive. Hunlive, je le rappelle, c'est le service de streaming concurrent de Gaikai. Putain, ça fait bizarre de dire qu'ils étaient concurrents de Gaikai, alors que à la base, quand même, c'est des pionniers du truc, quoi. Mais on va dire que ces dernières années, ils étaient un peu tombés dans l'oubli, parce qu'il y avait eu une première fermeture de la boîte. Ils l'avaient réouverte sous le même nom. Mais là, ça y est, c'est définitivement terminé. Hunlive ferme définitivement ses portes. Et attention, les brevets que détenait la boîte ont été rachetés par qui ? Je vous le donne dans le mille, par Sony.
Mais c'est marrant, on empêchait YouTube de racheter Twitch, et là, pour le coup, on n'empêche pas du tout Sony de racheter les brevets d'Hunlive. Non, il n'y a aucun problème de monopole de ce côté-là, quoi.
C'est... Ouais, mais parce que personne n'en veut.
Oui, non, mais on est d'accord, mais c'est... C'est marrant quand même. Ouais, genre, il est pas censé y avoir une autorité contre le trust, tu vois. C'est étrange.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi tous les brevets qu'a Hunlive, il y en avait un notamment, je crois, qui pouvait bien faire chier Sony. C'était sur la paternité notamment du streaming des jeux, quoi. À mon avis, c'est pour ça qu'ils se sont précipités avec le chéquier vite, avant que quelqu'un nous vienne nous faire chier avec ça et rachète les brevets juste pour nous faire chier, tu vois.
C'est ça.
dans tous les cas, moi, vous savez ce que je pense du streaming, hein. Je veux dire, déjà, pour voir des vidéos, c'est pas simple en France, qui est pourtant un pays qui est pas trop mal desservi, en termes de réseau, quoi. Alors, j'imagine, pour streamer des jeux, déjà, le chantage que font les fournisseurs d'accès à YouTube et compagnie, alors les Sony machin, là, pour moi, c'est totalement irréaliste comme système. Et il suffit qu'un fournisseur d'accès dise fuck et tu peux pas jouer à ton jeu, quoi. Donc, non, enfin, pour moi, c'est un système qui n'a pas d'avenir, je le maintiens, ou alors très restreint, mais... Je pense pas que ça puisse marcher, quoi. Et la preuve encore une fois avec Hunlive.
Bah, tant qu'on n'aura pas tous la fibre et une fibre monstrueuse, hein, parce que ça peut arriver même avec la fibre qu'on ait des moments de doute, on va dire, sur la qualité d'internet. Donc ouais, c'est, je pense que c'est viable, mais dans un avenir sous 10 ans, quoi, quand tout le monde aura vraiment la fibre.
Mais en tout cas, moi, je vois ça plutôt un côté assez stratégique pour Sony, parce que vu qu'ils avaient déjà racheté Gaikai, et bah là, ils prennent le concurrent qui était Direct, donc OnLive, bah ça leur permet en fait une sorte de monopole sur ce genre de service-là et d'avoir
concurrent, faut le dire vite. Hein. C'est comme tu sais quand t'as une énorme boîte, une toute petite boîte à côté, genre Intel et AMD, quoi. Quand t'as la petite boîte qui a pas les moyens de lutter à côté, c'est une concurrence, mais pas vraiment, quoi. C'est juste histoire de dire, quoi. Bon, ATH, tu vas garder la parole. Nous allons maintenant passer au Nintendo Direct.
Oui.
Alors, honnêtement, comme on s'y attendait, pas grand-chose, sauf les DLC à gogo.
Oui, et aussi la confirmation de Project 05 en Europe. Après, voilà, on a eu des trailers par Shin Megami Tensei X Fire Emblem. Pareil pour Fire Emblem 3DS, Bravely Second également.
Il n'y a pas eu grosse nouveauté, quoi.
Non, il n'y a pas eu vraiment de grosses nouveautés. Après,
Sauf les Amiibo.
Les Amiibo et les DLC, éventuellement.
Bah, pour moi, en fait, maintenant, c'est devenu... là, c'est la même chose, quoi. C'est synonyme. Amiibo, DLC, c'est juste que tu prends une figurine et que tu mets un DLC dedans, mais c'est la même chose. Hein. Surtout vu comment ça a été présenté là, mais tu vas nous apporter des précisions, ATH.
On va commencer par le DLC de Super Smash Bros. For Wii U et 3DS. Donc, on a eu la confirmation de Mewtwo, qui avait été déjà annoncé auparavant. Mais cette fois-ci, on a eu... le prix donc tu es de 4$ si tu le veux sur une...
Attends, j'ai entendu 4$ pour un perso ?
Oui, voilà. 4$ si tu le veux que sur une version.
Ça pique.
Si tu le veux par exemple sur Wii U ou bien 3DS, mais si tu le veux sur les deux, il faudra payer 5$. On a eu aussi la confirmation de Lucas qui rejoint le casting du Super Smash Bros. Mario Kart 8 qui passe aux 200 cm3. Qui sera lui une mise à jour gratuite.
Profitez-en hein, parce que vous allez pas en avoir beaucoup des trucs gratuits là. Donc
en fait, ça permet de préparer le DLC qui va arriver, qui avait été déjà annoncé avant avec l'arrivée de Link dans Mario Kart. Et bah là, cette fois-ci, on a un nouveau DLC avec des personnages d'Animal Crossing, je crois.
Oui, mais plus que ça, un circuit Animal Crossing.
Voilà, et ça permet donc de rajouter un peu de contenu et tout ça. Mais bon, lui, le DLC sera payant. Hein. Ce sera pas gratuit. On a aussi la date qui a été annoncée, le 23 avril. Mmh. Après, des amiibo, notamment l'amiibo Yoshi.
Oui, la peluche, c'est ça.
Voilà, la peluche avec un capteur NFC dessus, en fait. Ce qui va permettre de débloquer un deuxième Yoshi jouable dans ta partie. Mmh. Quand tu joues en solo, donc tu pourras jouer avec deux Yoshi. Et ça va permettre de jouer seul, mais... tu seras accompagné d'un autre Yoshi qui va te suivre. Et c'est donc voilà un amiibo un petit peu différent des autres, quoi.
Ok. Déjà, sur cette partie-là, messieurs, les DLC Nintendo, enfin, je sais pas pour vous, mais c'était parmi les derniers qui, quand ils sortaient un jeu complet, quoi. Mmh. Et là, enfin, ça y est, on se dit, ils sont réveillés, tiens. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des DLC, finalement.
Ouais, j'attends de voir les chiffres personnellement. Enfin, je sais pas si on en aura un jour, mais ça m'intéresse de voir s'ils vendent vraiment des DLC en fait sur Wii U.
Je pense pas qu'il y aura des chiffres.
Enfin, faut rappeler quand même que la Wii U, c'est pas une console qui est hyper méga vendue et quand tu vends des DLC en plus sur une console qui est pas non plus hyper répandue, je suis pas sûr que ça te rapporte énormément d'argent.
Surtout
quoi.
Qu'il y a pas un énorme disque dur, en plus je crois que c'est 8 gigas de base.
Ouais.
8 gigas la version blanche et 32 la noire en fait.
C'est ça.
Ouais, donc déjà en plus pour télécharger des DLC, t'as pas un disque dur énorme quoi, donc.
C'est ça.
Mais après ce qui est bien c'est que eux tu peux mettre un disque dur externe il faut pas un propriétaire Nintendo ou un truc comme ça pour tu peux mettre n'importe quel disque dur externe et ça va le formater sur Nintendo et après il va marcher dessus mais bon, t'es pas obligé d'avoir un truc propriétaire quoi.
Ok, bon, tant mieux. Mais bon, quoi qu'il arrive, je trouve leur prix assez élevé, surtout pour ce que ça apporte. Après, j'ai toujours crié au scandale par rapport au prix des DLC, donc je vais pas m'arrêter aujourd'hui, mais ça devient dommageable en fait quand le DLC apporte vraiment un truc au jeu, quoi, genre un personnage de Super Smash Bros.
Encore, ce serait une extension. Tu vois, ouais. Un vrai, bon, gros DLC, enfin, un truc comme on faisait à l'époque, tu vois, on te sort un supplément au jeu, conséquent, voilà, ça fait plaisir. Là, c'est du Capcom, quoi. On est au niveau ouais. Capcom, quoi. On te fait télécharger un perso à 5 euros. Mais on se moque de qui, quoi?
Bah, c'est surtout que, genre, il y en a qu'un seul, quoi.
Ah non, il y en a deux, hein, parce qu'il y a Mewdo et Lucas, là. Et
ouais, non, mais il y en a, deux, mais vaut mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup plutôt que plusieurs. Ouais.
Ah oui, bah...
Ah, mais c'est surtout qu'ils ont bien fait, parce que Mewtwo, c'est quand même un personnage qui est assez joué, quoi. Donc,
ouais, je sens qu'il va cheater, en plus, et... Mais bon,
oui, bien sûr.
Tu vois, ça fait quand même 10 balles pour deux persos, quoi. Ça fait cher, quoi.
C'est... Ça pique, hein. Et le pire pour moi, mais le summum de la connerie, c'est le circuit. Parce que là, en plus, tu fragmentes ta communauté de joueurs, quoi. T'as ceux qui ont le circuit, ceux qui l'ont pas, quoi. Donc, du coup, tu peux pas jouer avec tes potes sur ce circuit-là.
Bah, ça a toujours été comme ça, remarque, avec les Call of Duty, les machins, les Battlefields.
Ouais, mais j'ai toujours dit que c'était de la merde, donc si tu veux, je vais pas changer d'avis. Pour moi, c'est le pire type de DLC que tu peux avoir.
On est tout à fait d'accord. Sur le DLC 200 cm3 de Mario Kart, ça intéresse quelqu'un ou pas du tout?
Ouais, moi, ça m'intéresse un peu, parce que j'ai quand même retourné le jeu de base bien comme il faut. Et puis, 200 cm3, j'ai l'impression que, tu vois, ça va apporter un élan de voilà de vitesse et tout. Donc, je vais voir si ça va vraiment beaucoup plus vite. Et si vraiment Mario Kart va se transformer en une sorte de F-Zero un jour, tu vois. Parce que pour continuer la mutation avec la gravité qui est apparue et tout ça. Donc là, peut-être que, voilà, ça va, un jour, ils vont l'appeler ça Mario Kart F-Zero Special Edition. Je prends des royalties
pour moi, franchement, je trouve que c'est le truc le plus intéressant de ce Nintendo Direct, en fait.
Ouais.
Parce que, enfin, j'exagère, il y a quand même Fire Emblem qui m'attire pas mal, mais je trouve qu'en termes d'apport de gameplay, s'ils ont bien étudié le truc, ça peut être vachement bien, quoi.
Ouais.
Parce que c'est vrai que, du coup, ça rajoute une catégorie pour les gens qui ont un peu de skill, quoi. Et franchement, ça peut être vraiment, ça peut être pas mal, quoi.
Moi, j'ai juste un petit peu peur que ça soit du 150 cm3 qui soit juste un petit peu augmenté en termes de vitesse.
Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais ça fait l'air de speeder quand même. Hein.
Ouais.
Je ferai un retour là-dessus dès que ça sera disponible pour voir si ça change vraiment quelque chose par rapport aux 150 cm3. Quand tu joues en 50, 100 et 150, tu vois, il y a à chaque fois une différence entre les trois. Donc là, je suppose que ça, normalement, c'est logique qu'il y ait une différence en termes de vitesse. Ça serait logique, quoi. Après, donc, on a eu aussi du Splatoon.
Ah oui, c'est vrai, le Splatoon, j'avais presque oublié.
Ah, il faut pas oublier Splatoon. Ouais, hein, parce qu'il y a...
Splatoon, pour le coup, en plus, DLC à gogo aussi, parce que... Alors, le jeu, il sort quand, déjà?
C'est le 29 mai 2015.
Voilà, donc il sortira le 29 mai, mais avec plein d'amiibo, et pour le coup, plein de contenu dans les amiibo.
C'est des missions spéciales in-game qui permettent de gagner des armes et des équipements exclusifs utilisables dans le reste du jeu. Voilà. Ça veut tout dire.
Donc, voilà, enfin, c'est... Alors, moi, j'ai rien contre qu'ils se mettent au DLC, là, mais s'ils prennent le pire de ce qui se fait, à un moment donné, stop, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le fait de cette mise au mobile, tu vois, ils se préparent à faire des modèles économiques absolument pourris, mais là, c'est... pouf. La politique commerciale, je la trouve un peu minable, quoi. En
fait. Moi, je pense que le modèle actuel de Nintendo, en fait, c'est pas de vendre plus de consoles, c'est de vendre de plus de choses aux gens qui ont déjà la console, en fait. Mmh. Ils ont tellement peu de contenu, en fait, à offrir en termes de jeux, qu'ils vont développer tout ce qui est extérieur au jeu pour espérer faire plus de ventes. Donc, c'est ce qui se passe avec Splatoon, en fait. Mmh. C'est ce qui se passe avec les Amiibo. On force un petit peu le mec qui est à fond sur tel ou tel jeu à acheter un Amiibo pour pouvoir avoir l'expérience totale de son jeu. J'ai l'impression que c'est cette stratégie qu'ils sont en train d'appliquer, en fait.
Ouais. Et le pompon, si je puis dire, Mordrain.
Ouais.
Le nouveau Fire Emblem, je pense que tu dois frétiller d'impatience au vu du dernier trailer.
Ouais, c'est clair.
Le nouveau Fire Emblem qui, en plus, proposera de choisir entre deux factions.
Ouais.
Donc, dilemme moral, tout ça... En plus, je veux dire, un jeu où il y a une gaming qui me dit « Onichan !» Je veux dire, voilà, forcément, je ne peux pas résister. Mais, par contre, là où il y a la carotte,
ouais. Ah bah oui.
C'est que ils ont cru que Fire Emblem, c'était Pokémon, en fait, je crois.
C'est ça. Il faut savoir qu'en fait, sur 3DS, Fire Emblem Awakening avait plutôt pas mal marché. Et donc, du coup, j'ai l'impression que Nintendo s'est dit « Ah bah, why not ? Allez, vas-y, on en fait deux !»
Bah, il faut le dire, Fire Emblem Awakening a ressuscité la licence. Hein. Mais il était sur le point de crever, ça l'a vraiment remis sur les rails.
Ouais, parce
quoi.
Que s'il n'aurait pas marché, c'était le dernier Fire Emblem, quoi.
Ouais. Donc, voilà, bah, ça a tellement pas été le dernier Fire Emblem que maintenant, il y en a deux qui sortent.
Deux, voire même trois. Enfin...
Voilà. Alors, pour être assez précis... Ce qui se passe, en fait, c'est que donc le nouveau Fire Emblem, qui est sous-titré IF, donc IF, en anglais, ça veut dire si, pour vous donner en fait le choix entre deux factions différentes, la faction Oshido et la faction Nord, qui sont en fait
les gentils et les méchants.
Ouais, en gros, on va dire c'est ça.
Ouais, parce que là, par contre, c'est super maniqué, hein, franchement.
Ah non, mais clairement, la binarité au sens le plus strict. Vous avez donc vous incarnez un personnage principal que vous allez pouvoir créer de vos propres petites mimines, qui a été élevé par une faction et il est né dans une autre.
En gros, il a été élevé par les méchants et il voilà. Est né chez les gentils. Voilà.
Donc, évidemment, le jeu va vous proposer au bout d'un moment, de choisir entre ces deux factions. Donc, comme tu le disais, dilemme moral, ça va être assez incroyable, le choix qui nous est proposé.
Ouais, moi, je suis sûr que tous les ados, déjà, ils vont choisir Nord, parce qu'il y a une belle paire de... Enfin, excusez-moi.
Ouais, ouais, oh, mais grave. Ça m'a tellement fait rire, d'ailleurs, dans le trailer, t'as genre, première faction blanche où là, ça va, genre, une nana tout à fait normale, et la faction noire... Avec la, genre, les seins opulents, tu fais, bon, bah, comme tout daddy, hein. Et, donc c'est assez marrant. Enfin, bref, blague à part, le trailer est très très joli.
Ouais, bah, tu vois, justement, je me disais, en voyant le trailer, c'est à ça que devraient ressembler tous les jeux qui ont un style anime, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que là, t'as pas l'impression de voir des poupées sans vie, comme tu en as dans Xenoblade, par exemple. Là, ça a vraiment du style. Et d'ailleurs, Nintendo, un épisode Wii U, sinon, avec cette gueule-là, ce serait possible ou...
Ouais, non, je parce pense que ça va venir.
Pour le coup, quand tu vois le jeu 3DS, il fait très moche, quoi, franchement.
Ouais. Mais honnêtement, je pense que ça va venir, parce qu'il y a toujours eu un épisode console de salon sur Fire Emblem. Donc maintenant que la licence renaît un petit peu de ses cendres, why not? Donc, qui dit rivalité dit... Une binarité dit double jeu. Donc il y aura maintenant un Fire Emblem If White Kingdom et un Fire Emblem If Black Kingdom. À savoir donc que dans le jeu, on vous proposera dès le chapitre 6 en fait de choisir votre faction. Mais c'est là où la petite carotte arrive en fait, c'est que bah il sera pas possible de rejouer une partie en fait, si j'ai bien compris, avec l'autre faction, quoi.
Bah en gros, il faut la bonne cartouche, quoi, c'est tout.
Ouais, là en fait il y a en gros un peu comme à la manière d'un Pokémon ou bien d'un Inazuma, il y aura deux versions du jeu, genre la version noire et la version blanche. Donc tu choisis une des deux. Après il y a une troisième campagne qui est une sorte de DLC, on en parlait tout à l'heure, Nintendo qui se met au DLC à gogo, bah là t'auras un DLC qui sera donc une campagne entre guillemets, je sais pas, neutre, enfin je sais pas ce qu'ils vont inventer pour la troisième campagne.
On sait pas ce qu'il y aura dedans.
Voilà, c'est ça, donc pour l'instant je vais pas dire de bêtises, et t'auras après une sorte de version GOTY, on va dire, qui va regrouper toutes les versions, donc la version blanche, noire et la version neutre, hein, je l'appelle comme ça pour simplifier. Et après il y a une chose qui est assez étrange, c'est une version dématérialisée où tu vas acheter le jeu, mais en fait quand tu vas acheter le jeu, il va te demander quelle faction tu choisis, la version blanche, la version noire. Et si tu choisis la version blanche, et bah si tu veux rejouer la version noire, tu devras la repayer comme un DLC, quoi, pour la débloquer. Et la troisième campagne, faudra la débloquer en la payant. Donc je trouve ce format un peu bizarre.
Ouais, surtout que je précise, la version blanche, c'est un peu le mode easy du jeu, quoi. Enfin, ouais. Elle est plus facile que la version noire, en fait. Donc.
Oui, c'est assez complexe en plus, hein. Genre la version basique qui coûte 35€. Ensuite, tu peux acheter le complément en DLC à 14€. Et après, t'as un troisième épisode, tu sais pas ce que c'est. Et derrière, t'as la version édition limitée avec tout à l'intérieur. Tu dis, calme-toi, Nintendo. Genre, on se calme, c'est Fire Emblem. Hein.
Alors, moi, tu sais, au départ, j'étais plutôt dans l'optique de me dire, après tout, si c'est deux jeux complets, pourquoi pas.
Ouais.
Après tout, Sega l'a fait à une époque avec Shining Force. Hein. Shining Force 3, c'est ça. Hein. T'as le scénario A, le scénario B et le scénario C, où en gros, on te révèle tout à la fin, quoi.
Mais est-ce qu'ils sont pas sortis en même temps?
Déjà, ils sont pas sortis en même temps, mais en plus, c'était pas tout à fait la même chose. C'est que, en fait, le scénario A, tu avais le point de vue d'une faction, mais c'était la même histoire. Le scénario B, tu avais le point de vue de l'autre faction, mais c'était encore une fois la même histoire. Et le scénario C, c'était un peu, voilà, quoi. Et à chaque fois, c'était trois vrais jeux bien longs, bien complets. Là, ça fait quand même, on a pris un jeu, on l'a découpé en morceaux. Mais même ouais. Au-delà de ça, à la limite, imaginons que ce soit vraiment deux jeux complets. Là où je trouve que vraiment il y a la carotte, c'est le fait qu'on te dise, en gros, tu vas acheter une version, tu vas arriver au moment du choix, et imaginons qu'à ce moment-là, tu te rends compte qu'en fait, la faction que t'as choisie au départ en achetant telle version, tu trouves que les persos sont nazes. Bah, t'as l'air d'un gros con. J'ai l'impression qu'on a découpé le jeu exprès. Si jamais, tu vois, tu te rends compte que tu préfères telle faction, ben, pour t'inciter à repasser à la caisse derrière, quoi. Et ça, je suis pas fan du tout, quoi. Et en plus, je trouve que ça annihile un peu le concept de choix moral derrière, de ouais. dire, est-ce que je choisis entre ma famille d'adoption ou ma famille de cœur? Moi, je trouve que c'est un choix que j'adore ce genre de truc, quoi. Et là, on te dit, bah non, en fait, ce choix, tu vas le faire en achetant le jeu. Super. Merci, les mecs.
Ouais. Bon, on verra exactement comment ça se passe, parce qu'a priori, c'est comme ça que ça va se passer au Japon. On n'est pas encore trop sûr en Occident, parce que a priori, ça sortira en 2016. Et sur le trailer français qu'on a vu, il n'y a pas du tout de mention d'une double version. Du coup... peut-être qu'il reste encore un espoir pour nous, j'espère.
Peut-être qu'on aura juste la version GOTY, quoi.
Je me demande si c'est pas ça, parce que le fait qu'ils aient pas du tout communiqué dessus, ou alors, tu sais, ils ont pas communiqué dessus, mais en fait, t'as la carotte qui arrive derrière, quoi. Ah bah c'est oui. possible aussi, hein, mais... Donc, bon, on croise les doigts, parce que, pour le coup, alors ça, c'est un jeu typiquement qui pourrait me faire acheter une 3DS. Parce que le concept, j'adore, mais vraiment, hein. Même si ça a l'air super manichéen et tout, la direction artistique, je suis fan, en plus RPG tactique, tout ça, forcément, et puis le fait vraiment d'avoir un choix où tu te dis, est-ce que je choisis entre ceux qui m'ont adopté ou ceux qui m'ont élevé, enfin, j'aime beaucoup. Après, il faut voir comment c'est fait, hein, parce que d'un autre côté, je me dis, c'est tellement manichéen mon trailer, est-ce que ça va pas être un peu ridicule quand tu vas être en jeu? C'est la question que je me pose.
Voilà, après, t'as évidemment le gameplay Fire Emblem, d'ailleurs, il y a des petits ajouts à ce gameplay, notamment les attaques en duo et des interactions mineures avec la map. On a vu subrepticement d'ailleurs des unités créer un pont sur une rivière. Donc ça, ça peut être assez intéressant d'un point de vue tactique. Donc moi, j'ai hâte de voir. Et comme d'habitude, Fire Emblem, ça fait partie de la liste des licences que j'achète Day One de toute façon.
Et puis de toute façon, c'est pas comme si tu croulais sous les jeux sur ta 3DS, mon cher Morgan.
Exactement.
Allez, on va passer à la suite, messieurs.
Ouais.
Ouais.
Et nous allons terminer cette semaine d'actualité avec Quantum Break, qui est reporté en 2016. Et je vous sens déception, messieurs. cachez votre enthousiasme.
On va dire, avec Remedy, on a un peu l'habitude. Hein. Alan Wake, on l'a attendu quand même pendant pas mal de temps avant qu'il daigne se montrer. Hein. Donc, Quantum Break, qui soit repoussé en 2016... Ça me choque pas plus que ça, tu vois. On en parlait dans les podcasts par rapport à Uncharted 4. Là, on voit que même Nintendo, à la fin de l'année, il y a Zelda Wii U qui a été repoussé en 2016 alors qu'il était prévu en 2015. C'est des jeux qui sont ambitieux, qui demandent voilà pas mal de temps. Moi, je préfère qu'ils soient repoussés et qu'ils soient bien peaufinés, qu'ils sortent un peu à l'arrache et qu'ils corrigent ça à force de patch. Hein. Oui, je pense à toi,
Infinity. Encore une fois, quand on n'arrête pas de repousser des jeux comme ça, enfin, certes, c'est bien qu'ils prennent le temps de faire les jeux, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a des galères au niveau du développement, quoi. Et on parle de Remedy, hein, je rappelle. Donc Remedy, galère développement, c'est un peu des spécialistes du genre, donc... Oui, c'est bien qu'il reporte pour finir le jeu, mais c'est pas rassurant, quoi.
Ouais, enfin, tu vois, quand Alan Wake était sorti, tu vois, c'était un projet qui est né un peu dans la douleur, et quand, au final, quand il est sorti, c'était plutôt un jeu, voilà, qui était plutôt bien, tu vois, enfin, même s'il avait des défauts, c'était pas un jeu buggé, c'était pas un jeu mal fini.
Non, mais si tu veux, le jeu final qui est sorti n'a rien à voir avec celui qui est annoncé, c'est ça que je veux dire. Parce qu'au départ, je rappelle, Alan Wake, c'était censé être un open world, hein, pour ceux qui ont oublié. Donc, entre ce qu'ils ont annoncé, et puis j'espère qu'ils n'ont pas reparti en mode, comme avec Alan Wake. Alors ouais, ok, au départ, on avait une idée, mais en fait, on va tout rechanger derrière. Parce que c'est un peu des spécialistes de ce genre de trucs, Remedy. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, en fait. Je dis pas forcément que le jeu sera pourri, je dis juste que... C'est des spécialistes de la promesse de gameplay, bon, sauf que là, en l'occurrence, la promesse, moi, personnellement, elle me fait pas du tout rêver, mais bon, voilà, que derrière, on te rechange tout le concept, parce que, voilà, ils savent pas où ils vont, quoi.
Puis moi, de base, Quantum Break, c'est un jeu sur lequel j'ai beaucoup de doutes. De base, quand on me l'a pitché, j'étais vraiment pas très intéressé, et le fait qu'il soit repoussé, là, comme ça, je me dis, bon...
Ah, personnellement, depuis que j'ai vu la vidéo 3, je l'attends plus du tout, ce jeu, quoi, ça avait l'air mou du cul, putain, enfin, voilà. Bon... ATH, tu es prêt ?
Oui, bien sûr.
Nous allons passer, messieurs, dames, à notre jeu du moment, un jeu KTH attendez avec impatience, et ce jeu, c'est Bloodborne.
Heed. The blood is foul, and when night falls, the hunters return.
Je rappelle l'historique quand même, hein. Tu as fait Demon's Souls et Dark Souls, donc tu es un adepte de la série, et tu attendais spécialement ce Bloodborne, notamment pour une chose, le fait que le gameplay se dynamise un peu. Alors déjà, première question, est-ce que c'est vraiment un jeu dans la lignée des Demon's Souls et des Dark Souls ? Seconde question, si c'est le cas, est-ce que quand même il apporte un vrai dynamisme à la formule ?
Le principe reste le même. Tu es dans un jeu où chaque pas peut t'entraîner à la mort si tu ne fais pas attention aux ennemis qui sont cachés ou aux pièges qui vont t'attendre au détour d'un couloir.
Plus le concept quand même, je rappelle, d'âme, où en gros quand tu crèves tu vas rechercher ton âme pour récupérer ton XP, et si tu recrèves entre temps, bah tu perds définitivement l'XP que t'avais gagné jusque là, voilà.
Bah ça tu l'as toujours, sauf que à la place des âmes c'est des échos de sang, parce que voilà, c'est un autre univers, c'est plus du tout la saga des Souls, c'est autre chose qui a un rapport avec l'univers dans lequel tu évolues. Sauf que dans Dark Souls, comme tu le disais, ton personnage était assez lent. Le plus rapide des personnages dans Dark Souls, à côté, c'est un tank par rapport au personnage que tu vas incarner dans Bloodborne. Parce que dans Bloodborne, tu n'as plus de bouclier déjà.
Donc t'as plus ce gameplay d'attente qui faisait que t'attendais qu'on te tape, que tu pars et ensuite tu contres derrière.
Voilà.
C'est vraiment un gameplay d'observation, les Demon's Souls et Dark Souls.
Dark Souls, c'était, pour schématiser, plus la défensive. Si tu jouais avec un gros tank et bouclier, tu te mettais derrière ton bouclier, tu regardais un peu les patterns ennemis et là tu contre-attaquais dès que tu voyais une ouverture. Ou bien voilà. tu pouvais jouer mage et tout ça, mais entre guillemets, tu attendais les patterns de l'ennemi, ou bien tu te mettais à distance pour essayer de l'avoir.
Mage, c'était un peu le easy mode du jeu, hein, je veux pas
dire. Oui, c'est un peu craqué. Là, maintenant, tu vas incarner donc un chasseur. Par rapport au Dark Souls et tout ça, pour ton build de personnage, tu n'auras pas la capacité de choisir soit un magicien et tout ça. Ça va être imposé dès le départ. Maintenant, c'est des origines. Mais tes origines, en fait, ça va déterminer la force, l'endurance, la vitalité, etc. N'importe quel personnage que tu vas jouer, ça sera entre guillemets le même. C'est-à-dire un personnage avec une arme à la main droite et un flingue à la main gauche. Après, un peu plus tard dans le jeu, tu vas trouver des objets qui pourront te permettre de lancer des sorts magiques, mais c'est plus du tout pensé pour être joué comme ça.
Ah, d'accord. En gros, donc, l'évolution de ton personnage se fait par l'équipement, en fait.
Voilà, ils se jouent à peu près tous pareil. Comme tu le dis, c'est l'équipement qui va changer, et les points d'expérience que tu auras investis dans tes caractéristiques, par exemple, si tu auras plus de vie, si tu auras plus de force, mais tout le monde va jouer à peu près pareil. Et ce qui change vraiment, c'est que maintenant, c'est vraiment porté sur l'offensif. C'est-à-dire que ton personnage est ultra rapide. Il se rapprocherait un peu d'un beat'em all, sauf que t'as toujours cette barre d'endurance qui te permet de ne pas attaquer comme toi tu le veux. Tu vas mettre un certain nombre de coups et elle va s'épuiser. Et quand tu vas faire des esquives, ça va s'épuiser aussi. Sauf que cette fois-ci, quand tu fais une esquive et que tu lock un adversaire, et bah, tu vas plus faire des roulades comme dans Dark Souls, tu vas faire des dashs, soit en avant, en arrière, selon la direction que tu choisis, ou bien sur le côté. Il y a toujours cette notion de distance entre toi et ton ennemi. Il faut pas que tu sois trop loin, parce que quand t'auras une ouverture, tu pourras l'attaquer. Mais si t'es trop près, bah lui, il pourra te mettre un contre ou bien une attaque qui sera fatale. Et comme tu n'as plus du tout de bouclier, pour faire des contres, t'auras le choix, avec ton arme à feu, de tirer au dernier moment où l'ennemi va t'attaquer, et ce qui va, enfin, entre guillemets, l'interrompre dans son animation et qui va le surprendre. Tu pourras le contrer et lui faire une grosse attaque qui va lui mettre beaucoup de dégâts. Sur les gros ennemis, il faudra une arme spéciale pour pouvoir les contrer. Sinon, si tu vas tirer avec ton pauvre petit pistolet, bah ça va quasiment rien leur faire. Et aussi, le fait que le backstab, tu vois, avant, quand tu venais derrière un ennemi, tu pouvais lui mettre un coup critique qui lui faisait beaucoup de dégâts si tu venais tout doucement. Et bah là, maintenant, c'est plus du tout pareil. Je pense qu'ils ont fait ça pour le mode PVP. Il faudra que tu charges une attaque pour stun ton adversaire et après lui mettre un contre, alors qu'avant tu lui mettais un contre directement. Et en multijoueur c'était cheaté parce que les gens ils faisaient que ça.
Ok, on a compris que c'était beaucoup plus dynamique, etc. Mais est-ce que du coup la nouvelle formule t'a séduit et pourquoi ?
Ah, moi je kiffe totalement. Le dynamisme du jeu, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment un jeu beaucoup moins rigide qu'auparavant. Maintenant, c'est impossible de retourner sur Demon's Souls ou Dark Souls. Tu vois, je voulais même faire Dark Souls 2, que je n'ai pas fait, mais bon, apparemment, c'est un petit peu le moins bon de la série, donc c'est pas grave, quoi. Mais Dark Souls et tout, j'ai l'impression d'avoir joué avec des semi-remorques. Le personnage de Bloodborne, il est vraiment super agile, c'est vraiment nerveux. Ça apporte ce petit peps qui manquait, je pense, à la série. Enfin, ça manquait pas vraiment, mais pour moi, c'est un ajout qui est bénéfique. Mais sauf que pour pallier à ce système-là, pour pas que le jeu soit trop facile, ils ont mis plus d'ennemis qui t'attendent. Et donc là, si tu fonces dans le tas, bah, tu vas te faire encercler. Et quand tu te fais encercler, bah, en général, tu pourras pas t'enfuir parce que voilà, t'es bloqué et tout. Donc là, tu vas te faire défoncer la gueule en deux coups.
Mais est-ce que le jeu garde quand même une certaine profondeur? Parce que certes, les anciens épisodes étaient assez lents, c'est vrai. Mais ce qui était apprécié par les gens aussi, c'était le fait que voilà, il fallait vraiment observer, se poser. Réagir en fonction de l'ennemi que t'as en face, tu pouvais pas y aller comme ça, quoi. Alors certes, il y a beaucoup plus d'ennemis, mais est-ce que la difficulté vient du nombre d'ennemis ou t'as quand même une subtilité derrière où tu te dis, ok, cet ennemi-là, il a ce type de pattern-là, donc il faut que je fasse gaffe, je fasse ce type de mouvement, quoi.
Ça reste toujours un jeu d'observation. Quand tu rencontres un ennemi la première fois, quand tu connais pas ses patterns, tu vas rester, tu vas tourner un petit peu, voir comment il attaque. Par exemple, au début, les ennemis les plus forts dans la première zone du jeu, c'est les loups-garous. Et ces loups-garous, ils ont beaucoup plus de PV, ils sont beaucoup plus agressifs, ils font très très mal. Donc la première fois que tu vas y aller, si tu vas directement comme ça, tu vas mourir. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà essayer d'en attirer un, mais en général, ils vont venir à deux, donc là, c'est galère.
Surtout que t'as plus de bouclier comme dans Dark Souls, parce que dans Dark Souls, au moins, t'avais le bouclier pour te dire, ok, ils sont plusieurs, mais si je me place bien, tu vois, avec le bouclier, il y a moins de gérer, quoi.
Voilà, là, donc, tu vas être super mobile. On reste quand même dans cette logique où tu avances pas à pas, tu fais attention quand même à ce que tu fais, parce que y a des zones qui sont appelées des zones du cauchemar, qui sont vraiment une tannée. Quand vous arriverez dans ces zones-là, vous saurez de quoi je parle. Mais c'est pas vraiment parce que les mobs, ils sont difficiles et tout ça, mais il y a toujours cette notion de piège où tu vas devoir avancer dans un lac qui t'empoisonne, et c'est un lac géant. Ça fait un peu penser à Dark Souls, à cette zone qui s'appelait le hameau du crépuscule. Si vous vous rappelez, vous savez comme c'était une galère. Dans tous les souls, quand il y a cette zone de flaque empoisonnée, je les déteste vraiment parce que c'est une purge, quoi, à les traverser et tu meurs bêtement, quoi. J'ai fini le jeu. La première fois, j'ai mis environ 40 heures en faisant les Dungeon Calice.
Les Dungeon Calice, c'est les trucs général et informants, c'est ça, hein?
Voilà, c'est ça. J'en ai fait 3-4 pour voir ce que ça donnait, en fouillant bien le jeu et tout. En essayant de tout trouver par moi-même et tout ça, j'ai mis environ 40 heures et je suis plutôt content du résultat parce qu'après je suis parti voir ce que j'avais loupé. J'avais pas vraiment loupé de grandes choses. Je connaissais un petit peu, si tu veux, la fourberie des développeurs, donc je faisais vraiment bien attention à ce que je faisais. J'ai essayé de bien repérer les indices.
Les passages cachés, etc.
Voilà, et là donc j'ai trouvé beaucoup de choses par moi-même. Je pense qu'il y a peut-être moins de secrets que dans les anciens et que le jeu est beaucoup plus rapide parce que là j'ai fait une deuxième partie, je suis quasiment à la fin en 20 heures en essayant de récupérer tous les objets et tout ça.
Mais rapide, mais est-ce qu'il est linéaire ou est-ce que t'as encore cette notion de... T'as une map et tu te balades un peu dessus.
Le jeu est beaucoup plus linéaire que par exemple un Dark Souls. Et quand le jeu avait été annoncé, ils avaient dit que il y aura un hub qui permettrait d'accéder aux différents mondes et tout. Et moi j'avais peur que ça fasse un petit peu comme dans Dark Souls 1, enfin comme dans Demon's Souls, excusez-moi, où t'avais le Nexus et tu choisissais le monde dans lequel tu allais. Et après, ouais, tu revenais au Nexus. Et bah là en fait non, le sort de Nexus c'est le repère du chasseur, c'est un peu ta petite maison dans la prairie à toi. C'est là où tu vas augmenter tes armes et tout ça, où tu vas pouvoir te reposer et augmenter tes niveaux. Parce qu'à chaque fois que tu veux remonter tes niveaux, il faudra passer obligatoirement par le hub et par une poupée qui te permet de monter tes stats. Mais après, le monde, il est interconnecté comme dans Dark Souls. Tout le monde de Dark Souls tient sur un bloc. Et bah là, le monde de Yharmann tient aussi également sur un bloc. Et le level design du jeu est vraiment, il est vraiment ouf, quoi. C'est comme, ça rappelle Dark Souls vraiment, et je pense qu'il est même meilleur que celui de Dark Souls.
Question, est-ce que tu as toujours des feux de camp?
Non, c'est plus des feux de camp, c'est des lampes.
Non, mais enfin, le concept, quoi, je veux dire. Après,
oui, oui, non, mais c'est des lampes que tu allumes, en fait. Mais tu pourras pas augmenter tes statistiques au feux de camp, tu vois.
D'accord. Et par contre, tu peux pas choisir plusieurs zones. Parce que dans Dark Souls 2, tu choisis, ok, je vais me téléporter de telle zone à telle zone. T'es obligé de retourner au refuge du chasseur et ensuite de revenir à la zone où t'étais avant,
voilà,
quoi.
C'est
tu
ça,
peux
ouais.
pas choisir une autre.
Tu peux pas choisir une autre et, si tu dis, ouais, j'avais oublié quelque chose qui était un peu plus loin là-bas, bah, t'es obligé de retourner d'abord au refuge du chasseur, puis te téléporter à la zone. Tu peux plus y aller, te téléporter d'un feu à l'autre comme ça.
Ah oui, ça, c'est assez chiant.
Surtout que les temps de chargement sont assez longs quand même.
Ça n'a pas été patché, ça, depuis, depuis
non,
la dernière
pas
fois
encore.
D'accord.
Parce qu'en fait, quand tu retournes au refuge du chasseur, tu as un temps de chargement assez court. Parce qu'en fait, le refuge du chasseur, c'est une zone qui n'est pas connectée au monde, quoi. C'est comme le Nexus, c'était hors des limites du jeu, si tu préfères. Mais quand tu vas retourner dans le monde de Yharmann, ça va charger tout le jeu d'un bloc. Ça met environ 30 secondes de temps de chargement, quoi. Je les ai chronométrés et ça fait vraiment mal, tu vois.
Alors, on n'a plus l'habitude, surtout, en plus des temps de chargement.
Ah, surtout quand tu meurs et que c'est un jeu où les débutants vont mourir quand même beaucoup. À chaque fois que tu meurs, tu vas taper les temps de chargement. Et ça recharge les 30 secondes. Je tiens à préciser que j'ai fait le jeu hors ligne. Et apparemment, les temps de chargement sont un petit peu moins longs que quand tu joues en ligne. Parce que quand tu joues en ligne, t'as les espèces de fantômes des autres joueurs qui apparaissent et ils chargent aussi les messages qu'il y a au sol, etc. Apparemment, ça prend un peu plus de temps. Donc, moi, je trouve ça déjà vraiment chiant hors ligne. Alors, j'imagine même pas si j'y jouais en ligne, quoi.
Par contre, au niveau de la mort, il me semble qu'il y a une subtilité maintenant. C'est que dans Demon's Souls, Dark Souls, tu allais chercher ton âme et tu allais la récupérer. Sauf que là, il me semble que les âmes sont liées à... Enfin, les âmes, enfin l'équivalent.
Les échos de sang.
Donc, il me semble que les échos de sang sont liés à des monstres, en fait, maintenant.
C'est-à-dire que quand tu vas mourir, tu vas laisser ta flaque de sang par terre. Et après, donc, tu vas devoir essayer de la récupérer si tu veux pas perdre toutes tes âmes. Sauf que, des fois, ça peut arriver que... tes âmes, enfin tes échos de sang plutôt, c'est un ennemi qui les absorbe. Et donc, tu devras tuer cet ennemi-là pour le récupérer. Donc, c'est-à-dire que si c'est un ennemi ultra galère et que t'as eu du mal contre lui et que tu retournes pour essayer de le démonter...
Mais c'est pas systématique par contre. Hein.
Non, c'est pas systématique. Ça dépend. D'accord. C'est le jeu quand des fois il décide s'il veut te faire chier ou pas quoi. S'il dit
surprise.
Si on a envie que ça soit cet ennemi-là qui t'a défoncé la gueule et qui te les prend, ou bien ça peut être par exemple un petit corbeau qui en 2-3 coups va mourir. C'est pas lié vraiment à l'ennemi qui t'a tué. Mais des fois ça peut être celui-là, tu vois. Mais en général c'est dans la zone proche où tu es mort.
Ah ouais, non mais en plus j'imagine le mec qui marche. Oh putain, faites que ce soit pas l'ennemi qui l'ait pris, faites que ce soit pas. C'est pas mal comme ajout.
Ouais, bah ça apporte cette petite dose de stress supplémentaire, surtout quand tu sais que c'est un ennemi assez chiant à tuer, hein, les méduses, hein, je vous retiens parce que vraiment c'est vraiment des salopes celles-là. Mais sur le plan graphique, c'est assez joli, mais c'est pas la claque visuelle de ouf, tu vois, c'est pas The Order par exemple. Ça reste un jeu assez techniquement passable sur PS4, mais c'est surtout en fait la direction artistique qui rattrape le tout, quoi. C'est vraiment magnifique. On se croit vraiment dans un Londres victorien comme ça de l'époque, surtout avec les effets de fumée qu'il y a, tu sais, au sol et tout, de la brume et tout ça. Une des grandes qualités du jeu, c'est son level design et sa direction artistique.
Et sinon, au niveau de la rejouabilité, le fait que le jeu soit un peu linéaire, est-ce que ça gâche pas un peu? Parce que moi, ce que j'aimais bien aussi, ce que je trouve intéressant dans les Dark Souls, c'est le fait que, comme c'est des jeux, semi-ouverts, on va dire, t'as pas mal de passages secrets, de trucs comme ça. Là, j'ai l'impression que on perd un peu cet aspect-là.
Ça va être plus linéaire, mais il y a un château qui rappelle Castlevania, qui est une zone optionnelle du jeu. Si tu fais pas vraiment attention à ce que t'as dans ton inventaire et tout, ni savoir comment le débloquer, tu pourras pas vraiment y aller. Alors que c'est vraiment un château immense et tout. Y a plusieurs zones qui sont vraiment optionnelles, qui sont bonus. Donc ça, la rejouabilité, moi je pense que oui, il y a une rejouabilité, mais elle sera peut-être moins forte que les anciens Souls, tu vois, parce que déjà en termes de build de personnage, tu vas pas créer le personnage que tu veux, la classe que tu veux, etc. Mais c'est vraiment le début du jeu qui est plus linéaire et tout, qui est, on sent que voilà, ils ont pas voulu perdre un petit peu trop le joueur. Ils ont dit les deux premiers boss entre guillemets, tout le monde va faire les mêmes. Après, t'as plus le choix, quoi.
La bande son très bien ou. Je parle aussi bien de l'ambiance sonore que de la musique, hein, on t'aime bien.
Oui, alors la bande son, c'est déjà les musiques, ça intervient en général 90% du temps, c'est que contre les combats de boss. Entre temps, t'as pas de musique, à part dans certains passages où tu vas avoir de la petite musique comme ça qui va apparaître de temps en temps. Moi, je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de t'imprégner de l'ambiance du jeu. Surtout que là tu entends les monstres, t'es un peu paumé en ville et tout, ou dans les bois et tout ça, et t'entends des créatures qui sont en train de grignoter, ou bien qui sont en train de faire du bruit un petit peu à droite à gauche et tout, et tu te demandes d'où ça vient, et donc t'es un petit peu en stress et tout, et surtout si tu entends toujours des cris, enfin ce genre des hurlements comme ça qui te mettent vraiment bien dans l'ambiance.
Ouais, en gros c'est beaucoup plus glauque que Dark Souls 2, d'accord.
Ouais, bah c'est beaucoup plus glauque, le jeu en général est aussi beaucoup plus noir. Même dans avec les PNJ, c'est on sent que vraiment là Happy End ils connaissent pas quoi.
Bah en gros c'est un peu un retour aux sources, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu l'ambiance de Demon's Souls quoi. Et on est un peu perdu au fil des épisodes.
Il y a aussi la folie qui va atteindre un petit peu tout le monde, parce que j'ai pas parlé aussi du scénario, mais le scénario c'est en gros il y a une épidémie qui atteint la ville de Yharmann qui contamine les gens par le sang. Et toi, en tant que chasseur, tu vas devoir donc éliminer la source de tout ça. Mais le scénario, c'est comme dans tous les anciens jeux, c'est quelque chose qui est assez cryptique, qui va pas être dévoilé comme ça à n'importe qui.
Si tu t'en fous, bah tu fais 100, et si ça t'intéresse, faut regarder les objets, les décors, ce genre de choses, quoi.
Exactement. Ceux qui veulent pas se spoiler en faisant une soluce, lisez bien la description des objets, ça vous permet de trouver pas mal de zones optionnelles. Et surtout, il faut bien regarder le level design pour voir comment faire pour récupérer tel objet ou tel objet. Et en général ça passe, parce que si on réfléchit un petit peu, c'est on trouve au bout d'un certain moment. Après le jeu maintenant il est doublé en français par exemple.
Ça donne quoi?
J'avais un petit peu peur au début, honnêtement. Et vraiment le doublage est de très bonne qualité, à part le fait que à part vraiment 2-3 PNJ qui sont un petit peu, enfin pour ma part je trouve qu'ils sont un petit peu ratés. Et il y a un truc qui est aussi qui est un petit peu dommage, c'est que bah comme dans les anciens Souls, les PNJ ils parlent toujours la bouche fermée quoi. Ça fait un petit peu dommage quoi.
Surtout sur PlayStation 4, c'est un peu la loose quoi, je veux dire.
Voilà, c'est un petit peu dommage. Maintenant je vais quand même revenir sur les points noirs du jeu. Bah les temps de chargement comme j'ai dit, la hitbox de certains personnages est un petit peu pété, des fois ils te touchent alors qu'ils devraient pas te toucher. Et aussi des problèmes de caméra. Quand ça arrive, c'est chiant, surtout que des fois ça arrive contre des combats de boss et que en fait tu vois que l'arène est trop petite, et des fois donc t'es collé contre un mur et le boss il te fonce dessus, la caméra fait un peu n'importe quoi, c'est un petit peu chiant, ça peut provoquer des game over à certains moments.
Mais est-ce que c'est grave, ou parce que c'est quand même assez problématique pour un jeu qui se base sur les réflexes, enfin
ce problème là j'ai dû rencontrer 2 ou 3 fois, donc c'est pas quelque chose de chiant. Même c'est comme le truc de lightbox, je pensais être assez éloigné pour pas que l'ennemi me touche, et parce qu'il faisait une animation où il m'attrapait en gros, et après là il me faisait beaucoup de dégâts, et j'avais fait une roulade en arrière, et au moment où il fait son animation, il m'attrape, alors que si on regarde bien, normalement il était pas censé m'attraper quoi à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment dommage. Après, c'est vraiment des petits défauts qui sont mineurs, mais je tenais vraiment à les souligner parce que ça peut quand même rebuter certaines personnes. C'est un très bon jeu, pour moi peut-être le meilleur jeu de PS4, mais voilà, il a ses défauts qui sont inhérents à la série en fait. C'est les mêmes défauts qu'on a connus dans les anciens de la saga.
Et en plus, il est peut-être un peu moins ouvert que les anciens, ce qui ne plaira pas forcément tout le monde aussi. En fait, l'idéal, ce serait d'avoir ce jeu-là, mais avec la grandiloquence des anciens épisodes, quoi, au niveau de ce qu'il y a exploré, etc. Quoi.
Voilà, mais comme j'ai dit, c'est impossible de revenir en arrière pour moi maintenant en termes de gameplay sur les anciens Souls, parce que le fait qu'il apporte les dynamismes et tout ça, que le jeu soit porté sur l'offensif, j'ai trouvé que le jeu est paradoxalement plus facile que les anciens Souls, mais je connais vraiment très très bien les jeux maintenant, et je pense que voilà, ça m'a beaucoup aidé pour celui-là. Il y a eu des boss que j'ai eu voilà du premier coup, mais les meilleurs combats du jeu, c'est les combats contre les chasseurs qui sont comme toi. Tu vas combattre d'autres chasseurs qui sont soit prévus par le jeu, ou soit des chasseurs qui vont être invoqués dans ton monde, ou bien que tu pourras invoquer en coopération. Et quand tu combats ces chasseurs-là, on dirait vraiment que tu regardes un ballet de danse. Parce que quand les mecs ils esquivent, chacun se jauge, essaye de trouver le point où il peut attaquer, et ça donne vraiment une danse mortuaire qui est vraiment sublime à regarder. Et moi je pense que les gens qui vont jouer en PVP, ils vont s'amuser dessus, ou même les combats contre les PNJ, ça peut être vraiment quelque chose. Quand tu dois en infiltrer 3 ou 4 en même temps, crois-moi, tu rigoles pas. Et surtout, tu as des boss qui sont comme toi, qui ont les mêmes pouvoirs que toi, si tu préfères. Et donc moi je le conseille vraiment, ce jeu-là, pour tous ceux qui ont une PS4 et qui ont aimé les Souls. Parce que si éventuellement vous n'avez pas aimé les Souls, je pense pas que vous allez aimer celui-là, mais essayez quand même de le tester. Peut-être que le dynamisme pourrait vous plaire. En tout cas, je recommande vivement ce jeu-là pour tous les amateurs du genre.
Ok, donc éventuellement une suite qui améliorera les points que tu as évoqués, ça pourrait être pas mal.
Ouais, une suite qui serait un peu plus fluide, parce que des fois il y a aussi quelques ralentissements. Ça m'est jamais arrivé en combat, mais en fait c'est des fois quand je tourne la caméra, Bah, normalement, le jeu il rame un petit peu et des textures qui pop au loin. Quand tu tournes trop rapidement la caméra elle avait pas prévu en gros que t'allais regarder dans cette direction et je pense qu'elle a pas streamé ce qui se passait dans ce côté-là. Tu vois que ça apparaît au dernier moment, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est que des soucis mineurs.
Bon, de toute façon, c'est que des soucis techniques. Je veux
voilà.
Dire, c'est pas
mais plus... après, vraiment, le jeu pour moi c'est un grand plaisir et je suis vraiment content de l'avoir fait et de l'avoir attendu. Et d'ailleurs, bah là, je vais après juste après l'émission, je vais retourner dessus quoi pour continuer un autre run dessus et pour continuer encore dans cette danse ensanglantée, parce que tu vois à chaque fois que tu tues des monstres et tout bah t'as la jouissance en termes visuels et en termes voilà de défis qui t'apportent quelque chose et vraiment bah moi je vous dis jetez un œil quand même sur Bloodborne parce que je pense que sur la PS4 ça peut être une des seules exclus valables voire même un des seuls jeux valables tout court en termes vraiment de nouvelles licences etc.
Ok. Allez, on conclut là. Mordren a un avion à prendre.
Eh oui.
Nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Messieurs, dames, jouez bien, profitez bien. Salut à tous.
Salut. Et en plus de ça, il t'offre la comptabilité, la comment dire, attends, ah non, il te propose un service,
compatibilité.
J'ai du mal ce matin. J'ai oublié.
On commence à faire, on la refait.
En fait, il te propose la comptabilité. Bien.
Ça, je vous préviens, ce sera dans les bonus du podcast.
Compatibilité. Il te propose donc ce qui est bien, c'est qu'il te propose la.
On fait une pause, les mecs, reprenez votre souffle. On va recommencer.
C'est quoi le mot déjà?
Attends, je vais te le noter sur Skype.
Bah attendez. J'ai eu un fou rire. Excusez-moi.
Il te fait la comptabilité.
Je sais pas ce qu'il veut dire en plus, c'est ça qui est horrible.
Bon attendez, bon. Arrêtez de me faire rigoler.
C'est tout, c'est ta faute.
Bon, 3, 2, 1.